Vous écoutez RFI 19h30 ici à Paris, 18h30 en temps universel et à Ouagadougou.
Afrique Soir sur RFI.
Et l'heure de retrouver la première édition d'Afrique Soir de ce jeudi. Elle vous est présentée par Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire, la libération des 4 fonctionnaires français accusés d'espionnage et détenus depuis un an au Burkina Faso. Information confirmée par plusieurs sources dont la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Elle a une également la promulgation du texte de la nouvelle constitution au Gabon. Le pays entre ainsi dans la 5e République. Cérémonie officielle ce matin, place de la Libération à Libreville, en présence du président de la transition, le général Oligui Nguema. Nous reviendrons également sur le passage du cyclone Chido dans l'archipel français de Mayotte, mais aussi au Mozambique, où le dernier bilan fait état d'au moins 73 morts et de 600 blessés. Bilan nettement sous-estimé selon les organisations humanitaires. Et puis un invité exceptionnel ce soir, le Camerounais Samuel Eto'o. Les interviews de l'ancienne star du football mondial sont rares et pour la première fois depuis son conflit ouvert avec le ministre camerounais des Sports, Samuel Eto'o s'exprime et c'est sur Radio France Internationale. On l'a appris ce matin, 4 fonctionnaires français détenus depuis un an au Burkina Faso ont donc été libérés. Ils étaient accusés d'espionnage. Information diffusée dans la presse marocaine et confirmée par la Direction générale de la Sécurité extérieure. Le récit de Frédéric Garin.
Confirmation d'abord de la Direction générale du renseignement extérieur, la DGSE, auprès de l'AFP, puis de l'Élysée, selon qui le président français Emmanuel Macron a appelé hier Mohamed VI afin de, je cite, le remercier chaleureusement de la réussite de sa médiation. Le rôle de Rabat a également été salué à Ouagadougou. Selon la radio-télévision nationale, la RTB, le chef de la transition, le capitaine Traoré, a été sensible à la médiation du roi du Maroc. L'excellence des relations entre les deux hommes a permis des libération qualifiée d'acte humanitaire. C'est la conclusion d'un feuilleton qui dure depuis le 1er décembre 2023. Ces 4 membres de la DGSE avaient été arrêtés alors qu'ils arrivaient à Ouagadougou pour travailler avec l'ANR, l'Agence Nationale du Renseignement Burkinabé. La direction de la Sûreté de l'État avait estimé que leur visa n'était pas en règle et surtout que leur téléphone portable contenait des documents et des photos jugés sensibles par la Sûreté burkinabé. Accusés d'espionnage, les 4 hommes avaient été incarcérés à la Mako, la maison d'arrêt de Ouagadougou, puis mise au secret dans différentes villas à Ouagadougou, avant donc d'être enfin libérée grâce à l'intervention de Rabat.
Un récit signé Frédéric Garra. Au moins 35 enfants tués et 6 autres blessés dans une bousculade lors d'une fête foraine organisée dans les locaux d'une école du sud-ouest du Nigeria. C'est ce qu'indique un communiqué de la police ce jeudi. La bousculade s'est produite hier au lycée islamique de Bassoroun. 8 personnes, dont le principal sponsor de la fête foraine, organisée par la fondation Wings et la radio locale Jidigbo FM, ont depuis été arrêtées et une enquête a été ouverte à la section des homicides du département des enquêtes criminelles de l'État d'Oyo, selon le porte-parole de la police de l'État. Le Gabon est entré officiellement ce matin dans la 5e République. Le texte de la nouvelle constitution adoptée par référendum en novembre dernier a été promulgué ce matin par le président de la transition au cours d'une cérémonie organisée place de la Libération à Libreville devant le monument inauguré le 30 août dernier en l'honneur des militaires qui avaient renversé Ali Bongo un an plus tôt. Dans son discours, le général Brice Clotaire-Oligui Nguema a salué la promesse tenue et le déroulement du processus référendaire. Il a estimé que la nouvelle République était le reflet de l'histoire du pays, mais qu'elle devait être aux antipodes de la précédente. Écoutez.
La maturité des différents acteurs, l'unité nationale, la tolérance, le respect de l'autre et la transparence qui ont prévalu tout au long de ce processus prouvent aujourd'hui que le Gabon a fait un saut qualitatif vers une ère nouvelle. Cette loi fondamentale est appelée à être le reflet de notre histoire et la plateforme de nos espérances. Permettre la consolidation d'un état de droit et en promouvant les libertés fondamentales et les droits de l'homme. Assurer une justice équitable et l'égalité de tous devant la loi. Nous savons à travers cette constitution toute l'espérance que la nation fonde sur l'avènement du Gabon nouveau. La 5e République doit se placer aux antipodes de l'ordre ancien par sa gouvernance, avec de nouveaux visages et de nouvelles méthodes.
Voilà un extrait du discours du général Brice Clotaire-Oligui Nguema. En Centrafrique, le procès du député d'opposition Dominique Yandoka repoussé au mardi 24 décembre. Arrêté le 15 décembre 2023, il est accusé de complot contre l'État et devait comparaître ce vendredi dans le cadre de la session criminelle de la cour d'appel de Bangui. Mais suite au décès d'une magistrate dont les obsèques sont prévues aujourd'hui, l'audience a été déplacée. En République démocratique du Congo, 8 chaînes du bouquet Canal+, dans le collimateur du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Elles écopent toutes d'une suspension de 45 jours renouvelable. Le régulateur des médias leur reproche la diffusion de programmes jugés immoraux et qui inciteraient la jeunesse à une sexualité irresponsable. Fin de citation. Les responsables du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui se sont à maintes reprises prononcés contre l'apologie de l'homosexualité expliquent que la sanction infligée à ces chaînes vise, je cite, à préserver l'ordre public et les bonnes mœurs en République démocratique du Congo. Au Nigeria, le Bureau national des statistiques vient de publier un long rapport sur l'expérience du crime et la perception de la sécurité par la population. Il s'agit d'un sondage réalisé auprès de milliers de foyers sur l'ensemble du territoire entre mai 2023 et avril 2024. Une enquête qui révèle notamment que plus de 600 000 personnes auraient été assassinées au Nigeria durant cette période et que plus de 2 millions d'autres auraient été victimes de kidnapping à travers le pays. Les précisions de Lisa Fabian.
Les données publiées par le Bureau national des statistiques portent sur des crimes allant du vol de volaille au meurtre, en passant par le vol de voiture ou encore les violences sexuelles. Un foisonnement de chiffres particulièrement détaillé, mais dont la fiabilité est sujette à caution. On y apprend notamment que plus de 614 000 Nigérians auraient été assassinés entre mai 2023 et avril 2024. Le nord du Nigeria comptabilise plus de la moitié de ces meurtres. Le nord-est du pays est toujours en proie aux activités des djihadistes, alors que des groupes armés surnommés bandits sont actifs dans la zone nord-ouest. Ces gangs sont notamment spécialisés dans les kidnappings. Selon ce rapport du Bureau des statistiques, ce sont plus de 2 millions de Nigérians qui auraient été enlevés à travers tout le pays sur la période étudiée. Plus de 80% des victimes auraient finalement été libérées, mais environ 12% d'entre elles auraient trouvé la mort aux mains de leurs geôliers. Des chiffres remis en cause par les analystes du cabinet SBM Intelligence à Lagos. Ceux-ci évaluaient le nombre de kidnappings à moins de 8000 entre juillet 2023 et juin 2024, très loin des chiffres avancés par le Bureau des statistiques.
Précision signée Lisa Fabian. Lui a quitté la prison militaire américaine de Guantanamo après plus de 17 ans de détention sans jamais avoir été inculpé. Le Kenyan Mohamed Abdul Malik Badjabou est de retour dans son pays d'origine. Soupçonné de faits de terrorisme, il avait été arrêté en 2007. Des groupes de défense des droits humains se battaient depuis pour sa libération. Correspondance à Nairobi, Alban Tiroir.
Les États-Unis ont privé un homme innocent des meilleures années de sa vie, le séparant de sa femme et de ses enfants quand ils en avaient le plus besoin. C'est dans ces termes qu'un de ses avocats a commenté le transfert de Mohamed Abdul Malik Badjabou. Il avait été arrêté au Kenya en février 2007, puis déporté vers les États-Unis quelques semaines plus tard, soupçonné d'avoir des liens avec le groupe islamiste Al-Qaïda en Afrique de l'Est, notamment d'avoir été lié à une attaque à la bombe visant un hôtel détenu par des Israéliens à Mombasa, sur la côte est du Kenya, en novembre 2002. 13 personnes avaient été tuées. Mohamed Badjabou était depuis détenu dans la prison militaire américaine sans jamais avoir été inculpé. En 2021, la commission de révision de Guantanamo avait donné le feu vert pour la fin de sa détention, estimant qu'elle n'était plus nécessaire pour protéger les États-Unis d'une menace contre la sécurité nationale. Mais il aura donc encore fallu 3 ans pour que sa libération de Guantanamo soit effective et que le Pentagone annonce son transfert auprès des autorités kényanes. L'ONG américaine de défense des droits humains, Reprieve, se battait depuis plusieurs années pour sa libération. L'association qui milite pour la fermeture de Guantanamo dénonçait un emprisonnement injustifié et sans procès. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Et j'ajoute que 2 autres détenus ont également été transférés vers la Malaisie cette semaine. 27 autres sont encore à Guantanamo. Un cauchemar sans fin, c'est le sentiment des habitants du nord du Mozambique, frappés comme l'archipel français de Mayotte et le Malawi le week-end dernier par le cyclone Chido. Le dernier bilan de l'Institut national de gestion des risques et catastrophes naturelles mozambicain fait état d'au moins 73 morts et de 600 blessés. Bilan nettement sous-estimé selon les organisations humanitaires et selon les autorités de Maputo, à Miliculé, plus de 180 000 personnes sont sinistrées.
Une évaluation encore à affiner sur le terrain. 4 jours après le passage du cyclone Chido, le président mozambicain Filipe Nyusi a annoncé l'envoi d'équipes de secours dans le nord du pays, à Nampula, Niassa et Cabo Delgado, les 3 provinces les plus affectées. Elia Seda est chef de projet pour l'ONG Elpo. Elle est à Mekoufi, un district de la province du Cabo Delgado. Sur place, tout est à terre.
À Mekoufi, on manque de tout, même si l'aide alimentaire commence à arriver. Les habitants sont à bout, ils se sentent abandonnés à leur sort. On vit des catastrophes naturelles, des crises politiques et l'insécurité avec le terrorisme. Tout cela impacte la vie des Mozambicains.
Selon le Programme alimentaire mondial, le district de Mekoufi est dévasté. Plus de 67 000 personnes y ont besoin d'une aide d'urgence. Dans une province, le Cabo Delgado, déjà endeuillée depuis au moins 7 ans par un conflit entre forces gouvernementales et insurgés islamistes. Une violence qui a causé le déplacement de plus d'un million de personnes. Le nord du Mozambique a aussi déjà été touché en 2019 par le cyclone Kenneth. Chido frappe donc une zone déjà très vulnérable, fragilisée par une succession de crises. Et selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, même si la réponse a commencé, le niveau d'équipement est trop faible. 4 millions de dollars du Fonds d'intervention d'urgence de l'ONU viennent d'être alloués au Mozambique.
Précision signée Amélie Tulé, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Le GIEC de la biodiversité a publié ce mardi l'un de ses 2 rapports. Le document fait état d'un déclin de la biodiversité à tous les niveaux, tant au plan mondial que local et dans toutes les régions. Ce rapport Nexus souligne surtout que les crises de la biodiversité, de l'eau, de l'alimentation et de la santé sont toutes interconnectées, d'où l'importance de tenter de relever ces défis, non pas séparément mais ensemble. Le rapport formule aussi quelques 70 pistes de solutions. Certaines sont déjà mises en place. L'une des autrices donne des exemples au Sénégal. Les précisions de Pauline Glaise.
La restauration des mangroves au Sénégal, voilà un exemple cité dans le rapport. Une mesure qui ne permet pas seulement de stocker du carbone. Jeanne Mangalagiou, co-autrice.
On améliore l'alimentation locale parce qu'il y a des questions sur la pêche qui est plus durable. Mais aussi tout ce qui est prévention de l'érosion des zones côtières. Et aussi sur la fertilité des sols en milieu humide.
En protégeant des inondations, les mangroves sont aussi un outil contre le paludisme. L'une de ces opérations de restauration a été menée près de Saint-Louis, même si au départ, l'ouverture d'une brèche entre le fleuve et la mer a offert un contre-exemple, celui d'une mesure pour régler un problème, éviter les inondations et qui a eu des effets inattendus.
Ça a perturbé les domaines de pêche, au niveau très local pour les communautés de Saint-Louis, mais également les courants marins ont complètement changé et les bancs de poissons ont complètement changé.
Face à l'accélération de l'érosion, des mesures ont été prises.
La brèche, ça ne suffisait pas à avoir uniquement une approche par les mangroves, mais c'est intéressant. Ensuite de là, on est parti et donc dans des zones côtières, on a répliqué un certain nombre d'approches sur les mangroves.
Les mesures traitant l'ensemble des défis environnementaux peuvent être plus efficaces au niveau économique, mais cela demande plus de coordination.
Pauline Glaise. Fini le temps de la colère. En cette fin d'année, Samuel Eto'o se montre beaucoup plus diplomate et conciliant à l'égard de ses adversaires d'il y a 6 mois. En l'occurrence, le ministre camerounais des Sports et le sélectionneur belge qu'on lui a imposé à la tête des Lions Indomptables. Le président de la Fédération camerounaise de football ne s'avoue pourtant pas convaincu, pardon. Il n'exclut pas d'être candidat dans 1 an à un second mandat à la tête de la FECAFOOT. Et dès le mois de mars, il sera candidat à un siège au comité exécutif de la CAF, l'instance fétiche du football africain. Les interviews de l'ancienne star du football mondial sont rares et pour la première fois depuis son conflit ouvert avec le ministre camerounais des Sports, Samuel Eto'o s'exprime et c'est sur RFI, il répond aux questions de Christophe Poibouvier.
Samuel Eto'o, bonjour.
Bonjour Christophe.
Merci de recevoir RFI. Voilà 3 ans que vous présidez la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Mais depuis le mois d'avril dernier, vous avez perdu le contrôle administratif et financier de la sélection nationale des Lions Indomptables au bénéfice du ministre camerounais des Sports. Est-ce que c'est pas un gros coup dur? Est-ce que vous n'avez pas envie de laisser tomber?
Il y a eu des défis, je préfère les appeler ainsi, et nous n'avons rien perdu parce que la fédération est reconnue et est en lien avec la CAF et la FIFA, donc administrativement, on ne souffre de rien. Et il y a un autre volet, celui qui est financier, qui personnellement ne me pose pas de problème, mais il s'avère que en 2014, le chef de l'État avait signé un décret qui mettait la fédération face à ses responsabilités. Ça, c'est le côté financier. dont ces derniers sont sous la responsabilité du président de la Fédération camerounaise de football. Il s'avère que depuis le mois d'avril, comme vous le dites, ce décret n'est pas respecté, mais je suis tranquille. Les victoires de demain se construisent aujourd'hui et elles se construisent, un, dans la sérénité, deux, en respectant les règles et trois, en suivant un projet. Et nous suivons seulement le projet que nous avons proposé à ces électeurs qui nous ont fait confiance. Parce que dans quelques mois, dans moins d'un an bientôt, nous nous mettrons devant ces électeurs pour faire le bilan de ce que nous avons promis.
Donc dans un an, vous serez candidat à votre succession.
Écoutez, nous avons encore plusieurs mois devant nous. Nous verrons. C'était vraiment une année difficile, mais nous avons tenu bon. Nous continuons d'avancer. Je verrai avec les partenaires, ceux qui m'ont fait confiance, ceux qui m'accompagnent à longueur de journée, est-ce que ça vaut le coup qu'on continue ou pas. Et en fonction de ça, nous allons nous prononcer le moment venu.
Alors, on l'a vu lors d'une vidéo au mois de mai dernier où vous avez laissé exploser votre colère. Vous êtes en conflit ouvert avec le sélectionneur des Lions Indomptables, le Belge Marc Brice. Et dans une interview à la presse de Bruxelles, celui-ci vous a un petit peu épinglé quand même, hein. Il reconnaît que vous êtes populaire, que vous êtes très puissant, mais il dit que vous n'avez réussi que comme footballeur et que vous avez échoué dans tous les autres domaines, c'est-à-dire comme entraîneur, comme entrepreneur et comme président de la Fédé.
Si je vais répondre à un employé, vous verrez que je perdrai le niveau qui est le mien. Je vais rester à mon niveau de président, mais quand vous dites on m'a épinglé, je dis les gens se donnent de la visibilité à travers moi, parce que si vous ne parlez pas de Samuel Eto'o, on ne sait même pas d'où vous êtes sorti, et puis vous pouvez retracer. Dans le football, on se connaît, je ne pense pas que avant l'arrivée de ces personnes dans notre belle équipe, moi je connaissais pas, et je n'ai pas de problème personnel avec toutes ces personnes. Donc je dis souvent, parfois les gens se lancent dans des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Et quand vous regardez, tout a été fait dans les règles de l'art à la Fédération camerounaise de football, administrativement d'ailleurs. Il n'y a plus certains problèmes aujourd'hui. Même si nous avons appris que maintenant, les paiements se font en cash, ce que nous avons banni à un moment donné parce que ça créait la suspicion. Et pour une meilleure traçabilité, il fallait insister. Et je souhaite qu'on insiste parce que sinon, nous allons repartir 20 ans en arrière où on payait des gens en cash et on ne savait pas trop où l'argent passait.
Les résultats, ils sont plutôt bons hein, en ce moment pour l'équipe Fagnon, pour les Lions Indomptables. Elle s'est qualifiée hein, pour la prochaine CAN au Maroc. Il n'y a pas eu de défaite hein, depuis le mois de juin, depuis que Marc Brice est à la sélection de cette équipe. Il n'est pas si mal finalement, ce sélectionneur belge.
Mais écoutez, personne n'a dit qu'il était mauvais. Hein. Personne n'a dit qu'il était mauvais. Mais il y a des règles et ces règles doivent être respectées. Il y a un décret qui est là, qui donne des pouvoirs à la Fédération camerounaise de football. Mais beaucoup plus loin, il y a les statuts de la FIFA, de la CAF et de la Fédération camerounaise de football qui donne les pouvoirs au comité exécutif et à son président de choisir son sélectionneur sur la base du projet que nous avons présenté aux délégués. C'était ça le débat. Je ne rentre pas dans le jugement s'il est bon ou pas. Jamais je n'ai dit qu'il n'était pas bon parce que je ne le connaissais pas. Donc je ne peux pas juger quelqu'un que je ne connais pas. Mais sur la base du projet que nous avons présenté aux délégués, il était bon qu'on aille jusqu'au bout de notre logique. Nous avons voulu nationaliser le banc de touche parce que nous nous sommes dit qu'on n'avait pas besoin d'aller chercher notre expertise ailleurs et nous avons connu beaucoup de problèmes avec les sélectionneurs et étrangers qui venaient, qui traînaient tout le temps la fédération camerounaise et un peu plus loin, l'État du Cameroun dans les tribunaux où, au final, l'État se retrouvait en train de payer des sommes pas possibles. Nous nous sommes dit, nous allons donner l'opportunité aux Camerounais de bien faire le travail. Et je pense que le sélectionneur Rigobert Song, dans des conditions particulières, a rempli ses missions. Il a qualifié le Cameroun en extremis, à Blida. Il a qualifié le Cameroun pour la CAN. Nous avons eu une CAN difficile. Il a continué, il a commencé les éliminatoires, que le sélectionneur Marc Brice a continué. Donc, il y avait déjà un résultat qui était là, dans des conditions difficiles, parce que c'était un Camerounais qui était à la tête de la sélection Fanion. Ah, ça, c'est la vérité. Je ne m'oppose pas à ça, je dis juste, il faut qu'on respecte la loi. Et le président Mbia, qui a été un visionnaire, a signé des décrets en mettant des gens face à leurs responsabilités. Au final, qui est responsable? C'est ça, parce que les lois, le décret du chef de l'État, toutes ces choses n'ont pas été respectées. Mais personne n'a jamais dit que ce monsieur était bon ou pas. Du moins, de mon côté, comme président de la Fédération camerounaise de football. Parce que avant son arrivée au Cameroun, je n'avais jamais entendu parler de ce monsieur. Et Dieu seul sait que je connais quand même le monde du football et je connais plusieurs grands entraîneurs qui ont gagné et qu'on connaît. Il est arrivé là. Nous allons tout faire pour qu'il atteigne les objectifs que nous avons en commun. Ces victoires sont les nôtres. Ces défaites aussi sont les nôtres. Parce que il faut pas oublier quelque chose. Les fédérations en Afrique, elles vivent grâce aux victoires des équipes fanions. Parce que quand vous êtes qualifié à une CAN ou à une phase finale de Coupe du Monde, vous avez un prize money qui vous permet de construire des stades, de construire un siège. Donc, on ne peut pas travailler contre nos propres objectifs. Souvent, quand les gens disent « Ah, oh, mais la fédération travaille contre nous », mais non, comment la fédération peut travailler contre vous? Parce que ceux qui bénéficient des victoires de la fédération, les premiers, sont ceux qui représentent directement la Fédération camerounaise de football. Donc, nous faisons tout pour que tout marche bien dans des conditions particulières.
Depuis le mois d'avril, vous êtes donc opposé au ministre camerounais des Sports, hein, Narcisse Mwele-Kombi. Mais celui-ci est soutenu par le très puissant secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo. Est-ce que cet adversaire n'est pas trop fort pour vous?
Christophe, je ne suis opposé à personne. Je ne suis opposé à personne. J'ai défendu la légalité. C'est la seule chose que je défends, la légalité. Je ne me reconnais pas en ayant des adversaires. Le ministre des Sports, c'est un aîné. Et j'ai eu l'occasion de le lui dire. Je défends ce qui, la loi. Parce que c'est la loi qui permet au Cameroun de vivre ensemble. Et nous savons tous que le président Biya porte ce vivre ensemble. Il le met au-dessus de tout. Parce que dès lors où on ne peut pas respecter la Constitution, on ne peut plus respecter les décrets signés par le chef de l'État, il y a un problème. Mais vous êtes conscient que le jeune monsieur que je suis, je ne peux pas être celui qui ne respecte pas la volonté du chef de l'État. Donc, si mon aîné, monsieur le ministre des Sports, prend une position que nous, à la Fédération, nous estimons qu'elle n'est pas dans la légalité, bien sûr que nous faisons savoir au ministre notre point de vue. Pourquoi? Parce que il faut qu'on apprenne à respecter ce qui est juste. Il faut qu'on apprenne à respecter les écrits, la loi, parce que les gens ne se rendent pas compte.
L'une des causes, vous parlez politique, et l'une des causes de vos ennuis, vous le savez bien, Samuel Eto'o, c'est que un certain nombre de Camerounais disent que vous avez des ambitions politiques et que vous visez un destin à la George Weah au Liberia. La prochaine présidentielle au Cameroun, c'est au mois d'octobre prochain. Est-ce que vous y pensez?
Mais écoutez, Christophe, je pense que vous recevez pas mal de politiques et vous savez quand même que je ne peux pas me présenter à l'élection. Je vais prendre les députés où? Je vais les prendre où? J'ai pas de parti. Et puis, je crois, si mes souvenirs sont exacts, que ceux qui souhaitent se lancer dans cette élection sont connus. Et puis, ils connaissent clairement ma position, celle que j'ai toujours affichée, celle de soutenir le président Biya. Et je ne change pas ma position. Mais la même préoccupation que certains, comme vous dites, ont, ils l'ont aussi au niveau de la CAF. Ils l'ont aussi au niveau de la FIFA. Donc finalement, partout je me retrouve dans des problèmes parce que les gens me prêtent des intentions, mais jamais je ne me suis prononcé sur toutes ces choses.
Vous êtes un citoyen camerounais, Samuel Eto'o. Rien ne vous interdit un jour d'être candidat à une élection présidentielle.
Mais vous savez, généralement, je fais ce qui me rend heureux. Et je n'épouse pas les idées des autres. Et je ne veux pas être le mur où les autres se cachent en nourrissant leurs projets. Et je ne suis pas quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. Je dis toujours ce que je pense et j'assume ce que je dis. Et je l'ai dit il y a quelques mois, je le redis encore clairement. Je n'ai pas cette prétention ni cette volonté de me lancer dans une course politique. J'ai voulu devenir président de la Fédération camerounaise de football. Je suis allé chercher ce mandat de rupture et je suis en train de dérouler le projet que j'ai présenté aux délégués qui m'ont fait confiance, qui nous ont fait confiance. Voilà.
Ce qui nous a tous frappés depuis avril dernier, c'est la très grande discrétion de Patrice Motsepe et au-dessus hein, de Gianni Infantino, qui logiquement aurait dû soutenir la FECAFOOT contre les intrusions du pouvoir politique et du gouvernement hein, dans les affaires du football camerounais, et qui apparemment n'ont rien fait pour vous. Est-ce que quelquefois vous ne vous le sentez pas comme un homme seul ?
Vous avez bien dit apparemment, mais vous savez que le président, et je le dis souvent à nos collaborateurs, que le président a les éléments que nos collaborateurs n'ont pas. Et c'est bien dit parce que vous avez dit apparemment. Mais je vous rassure que si nous sommes encore à la tête de cet exécutif, c'est parce que nous avons eu le soutien du président Motsepe et le soutien du président Gianni Infantino. Maintenant, je ne voudrais pas forcément qu'on dise le gouvernement camerounais. Il est vrai qu'il y a eu des positions de certaines personnes, mais je puisse aussi vous dire que nous avons reçu pas mal de soutien à l'intérieur de ce gouvernement, ce qui nous a permis de maintenir le cap et de continuer à travailler pour le bonheur de tous les footballeurs camerounais. C'est toujours pas facile parce que les intérêts personnels parfois peuvent engager tout un gouvernement. Mais je voudrais vous dire que j'ai échangé avec ces dirigeants de ces instances. Il y a des choses, vu la responsabilité qui est la mienne, j'ai le droit de réserve. Il y a des choses que je ne peux pas exposer en public, mais je veux vous rassurer que si nous continuons dans notre mission, c'est parce que nous avons eu le soutien et l'implication de ces dirigeants-là vis-à-vis de la Fédération camerounaise de football. Et d'ailleurs, il y a des documents qui ont circulé où la FIFA a pris une position claire et je remercie encore. Je sais qu'il n'aimera pas ça parce qu'il me dit toujours « Non, tu es mon patron », mais je dis toujours « Mon jeune frère et patron direct, Gelson Fernandez, qui fait un travail magnifique, qui est mon patron direct. » Et je lui dis merci pour tout son soutien, son accompagnement, et puis sans oublier mon jeune frère et patron secrétaire général de la FIFA, Mathias.
Donc vous n'êtes pas un homme seul ?
Je n'ai jamais été un homme seul. J'ai toujours été un homme accompagné et j'espère que je le serai toujours. Je ne saurais terminer cet entretien sans dire un grand merci à mon comité exécutif, malgré toutes les tentatives de déstabilisation, de menaces, d'affectation, le comité exécutif a tenu bon, a continué à travailler, a gardé sa concentration sans jamais trahir le président du comité exécutif que je suis. Évidemment, il y avait des points de vue différents, mais c'est ce que nous voulons dans ce comité exécutif. Mais à chaque fois, nous avions des positions communes qui nous permettaient d'avancer. Donc, je dis encore à toutes ces personnes et surtout à ma brave vice-présidente, Madame Céline Eco, que j'appelle affectueusement ma maman, qui est mon ange gardien, qui est mon premier garde du corps. Je sais qu'elle a été exposée à beaucoup de manipulations, à des gens qui voulaient m'opposer ou l'opposer au président que je suis, mais elle m'a apporté son soutien. Je dis grand merci et je dis bravo pour le football féminin, le niveau où elle a mis le football féminin.
Samuel Eto'o, merci.
Merci à toi, Christophe.
Voilà, le président de la Fédération camerounaise de football, interrogé par Christophe Boisbouvier. Entretien à retrouver sur les environnements numériques de Radio France Internationale RFI. Il est 18h58 en temps universel.
Après le passage du cyclone Chido qui a dévasté Mayotte, RFI s'associe à la Croix-Rouge française qui lance un appel à dons pour soutenir la population touchée par la catastrophe d'une ampleur immense. Dans l'immédiat, la priorité pour aider les victimes est d'apporter de l'eau, de la nourriture, des produits d'hygiène et du matériel pour construire des abris. Chaque don compte. Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien. Pour aider les volontaires de la Croix-Rouge sur place, faites un don sur croix-rouge.fr.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
Question de femmes, nous parlons des migraines, diagnostic, prise en charge, reconnaître les facteurs déclenchants, prévenir et soulager ces maux de tête.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
À l'heure des fêtes de fin d'année, je vous propose de découvrir un très beau livre illustré par Benjamin Lacombe qui vient de mettre en image le grand classique de la littérature mondiale, Le portrait de Dorian Gray, signé par l'écrivain Oscar Wilde. Un album exceptionnel présenté ici dans sa version intégrale et inédite.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.